Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission Polar, qui est toujours en 2016, l'émission la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Voilà, c'est la première émission de 2016. On va donc vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. C'est vrai qu'on ne croit pas trop au fait que changer de numéro d'année change quoi que ce soit à nos vies, mais il n'y a quand même pas de mal à se faire du bien. Donc, que les histoires qui vous arrive cette année soit les moins noires possibles, soit sereines, gaies, enjouées, histoire d'amour, histoire d'amitié, des rencontres agréables,
musicales,
plein d'heureux événements. Et bien sûr, on est quand même dans de noir, de beaux enthousiasmes de lecture et de saines lectures. On va commencer cette année par évoquer un écrivain dont je parle très régulièrement dans cette émission. Tout simplement parce que chaque nouveau roman traduit est la plupart du temps une très très bonne surprise et celui-ci ne déroge pas à la règle. Cet auteur, c'est Thomas H. Cook. Le roman qui vient de paraître s'appelle « La vérité sur un acclin ». Il est traduit par Philippe Loubla-Delran et il est paru, ça c'est une très bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui se sont un petit peu ruinés pendant les fêtes, il est paru chez Poinceuil, en poche donc pour aux alentours de 8 euros. C'est en fait pas le dernier roman écrit de cet auteur américain, car l'édition originale date de 2011. Et en France, déjà, il y en a paru deux depuis. Il faut dire que Thomas H. Cook est prolixe, il écrit depuis plus de 35 ans. Et dans les années 2010, je dirais qu'on est dans sa période prénom féminin. Vous voyez, 2009 traduit « L'étrange destin » de Catherine Carr, 2011 donc « Anna Klein » et paraît aussi aux États-Unis « Dernière conversation avec Lola Fay ». Enfin, en 2013, « Le dernier message » de Sandrine Madison. En automne dernier sortait « Le crime de Julian Wells ». On est passé au prénom masculin. Et je trouve qu'il y a pas mal de ressemblances entre les deux derniers romans parus, donc « Le crime de Julian Wells » et « La vérité sur Anna Klein ». L'idée, c'est que il est vrai que Thomas H. Cook a toujours été hanté, et on le voit dans ses bouquins, par le mal, ce mal ordinaire qui est tapis entre chacun d'entre nous, ce mal qui ronge ses personnages, ce mal qui remonte du passé, qui remonte de l'enfance, par exemple dans « Les leçons du mal » ou bien « Au lieu dit du noir et temps ». Autre thème souvent abordé par l'écrivain américain, les lourds héritages familiaux, ou bien encore la pression de la rumeur publique. Et dans ce dernier, comme dans le précédent, Thomas H. Cook doit se souvenir qu'il fut professeur d'histoire, car il mêle régulièrement les destins de ses protagonistes avec des événements tragiques du XXe siècle. C'est vrai, par exemple, pour « La vérité sur un acclin », où on va découvrir petit à petit le récit que livre Thomas Danforth. Il a plus de 90 ans et il raconte, je vais dire ses souvenirs, mais ce n'est pas vraiment ça, à un jeune novice des services secrets américains en 2011, après les attentats du 11 septembre. Ses souvenirs commencent juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et le destin de Danforth va basculer, non pas par rapport aux événements, ce qu'on pourrait croire, mais simplement pour avoir connu une femme. Ce fut un dandy aisé, promis à une vie douillette, certes sans surprise, mais il allait se marier, vivre dans la bonne société, une espèce de Gatsby. Mais il va croiser la silhouette d'Anna Klein, qui est un agent qui s'entraîne pour une mission délicate en Europe, juste avant, donc je l'ai dit, la Deuxième Guerre mondiale. Et par amour, par passion, pour cette femme très étrange et très mystérieuse, il devient à son tour agent secret et décide de partir pour la France avec elle. petit à petit, il comprend qu'il participe à une mission insensée, tuer Hitler afin de sauver l'Europe et des millions de personnes. Anna Klein, Danforth et leur compagnon Bannion échouent, on s'en doute, bien évidemment, c'est pas le sujet du roman. On le sait que Hitler a démarré la Deuxième Guerre mondiale et qu'il s'en est suivi des millions de morts. Mais ce qui est intéressant, c'est juste après la déroute de l'attentat. Danforth va assister à l'arrestation de la belle espionne et à la mort de Bannion. Désespéré, Thomas veut se tuer. Mais la capsule de cyanure que devait emporter Anna et qu'elle a oubliée apparemment ou qu'elle n'a pas pu emporter se révèle bien inoffensive. Anna, si étrange, si avare sur ses souvenirs et son passé, sur ses origines. Et si Anna n'était pas un agent américain, mais plutôt payée par les soviétiques, à moins que dans le grand jeu de dupes du monde des espions, elle ne fût tout simplement qu'un espion à la solde d'Hitler, et qu'elle les ait menés tous par...
Le bout de la moustache.
Voilà, on va dire ça comme ça. Le jeune homme va ainsi passer sa vie, pendant la guerre, après la guerre, va passer sa vie, son énergie, sa fortune, à traverser l'Europe, à souffrir 1000 morts, pour retrouver Anna, morte ou vive d'ailleurs, et comprendre qui elle était vraiment, ce qu'il n'a jamais pu savoir quand il était avec elle. Thomas H. Cook, on le sait depuis des années, c'est un grand styliste, un très bon tricoteur d'histoire. D'ailleurs, il l'énonce malicieusement au début de ce roman. La façon la plus simple de construire une intrigue, donner envie à l'autre d'en connaître autant que vous. Et ça, ça marche du début jusqu'à la fin dans ce roman. Effectivement, on a juste envie d'en connaître autant que lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un décalage entre le récit, je dirais presque nonchalant, que fait le vieillard, un verre de whisky à la main dans un club feutré de New York, et les faits qu'il rapporte. Décalage qui, à lui seul, est un grand plaisir de lecture. Et pourtant, des tortures nazies au goulag russe, en passant par le génocide arménien, c'est encore une fois le mal absolu qui se dévoile ici à travers la quête de Danforth. Toujours dans le décalage, la noirceur et la violence des propos sont toujours nuancées par les péripéties incroyables que vit le personnage, à l'instar, en gros, des héros dans les grands romans d'espionnage. Qui est qui? Pour qui travaille Anna? Pour qui travaillent ses complices? Et surtout, évidemment, qui trahit qui? Jusqu'à la fin du roman, le jeu va continuer et le lecteur sera mené exactement là où l'auteur le veut. Jusqu'au dénouement où, comme le demande le vieil agent, vous espérez une fin spectaculaire? Une poursuite sur les toits? Où on guise de scène finale deux vieux bonhommes en venant aux mains, comme Holmes et Moriarty aux chutes du Reichenbach? Moi, je vous la laisse la découvrir, la fin. Voilà, donc ça s'appelle La vérité sur Anna Klein, ça vient de sortir chez Point Seuil Policier, et l'écrivain américain s'appelle Thomas H. Cook. Un peu de musique maintenant?
Un petit peu de musique, un morceau de Motorhead qui s'appelle Rock'n'Roll, qui est extrait de l'album qui s'appelle Rock'n'Roll, et ce morceau nous parle de
Rock'n'Roll.
C'est comme, en fait, c'est une espèce de profession de foi du regretté Lemmy, qui dit, entre autres dans ce morceau, que le rock'n'roll le protège même du froid, c'est dire.
Oui, mais Rock'n'Roll never die, alors que malheureusement...
Et oui, Lemmy... il nous a un petit peu quitté.
Voilà.
Enfin, même carrément.
À tout de suite. Girl, Voilà, c'était donc, je ne me souviens plus le titre, si rock'n'roll, c'est quand même pas difficile.
Motorhead.
Voilà, donc Jack, autre bonne surprise, fin 2015, début 2016.
Ouais, voilà, un polar qui sort ces jours-ci. C'est un roman de Måns Kalentoff et Marcus Lüttemann, qui s'appelle Zack, Z-A-C-K, qui est paru à la série noire de Gallimard et qui est traduit du suédois par Frédéric Fourreau. C'est donc, comme William vient de vous le dire, un polar écrit à quatre mains, probablement plutôt deux claviers. Donc Måns Kalentoff. Marcus Lüttemann est aussi un auteur de polar suédois, mais qui n'est pas encore traduit en France. Måns Kalentoff, lui, vous le connaissez sûrement, on en a parlé dans cette émission. Il est célèbre pour sa série des enquêtes de la fliquette, ou la flic, Malin Force. Alors il a un tout petit peu délaissé...
Une de tes préférées.
Une de mes préférées, voilà. Donc il a un petit peu délaissé son personnage pour entamer en parallèle, en fait, en 2014 dans son pays, en 2016 chez nous, une nouvelle série mettant en scène un nouveau flic qui s'appelle Zacharias Eri. Plutôt que Zacharias Eri, on va tout de suite l'appeler Zach. D'ailleurs, tout le monde l'appelle comme. C'est le titre du roman, du coup. Donc Zach, lui, c'est un jeune et brillant flic, membre d'une brigade spéciale de la police suédoise qui est en charge des affaires spéciales, disons. Des affaires un peu à part, qui a besoin d'une équipe renforcée pour les traiter. Et dans ce premier roman, Zach va tenter d'élucider, du moins au début, les meurtres de quatre jeunes femmes d'origine asiatique qui travaillent dans un salon de massage thaïlandais comme masseuses, ou plus si affinité, on va s'en rendre compte assez vite. Alors la piste de la vengeance entre sous-traitants, si j'ose dire, est très tentante pour... expliquer pour expliquer ses meurtres. Mais les premiers indices dirigent aussi Zach et son équipe vers l'idée d'un acte purement raciste ou celui d'une frustration sexuelle mal assumée. Assez rapidement, d'autres exécutions vont pousser le flic et son équipe dans les deux voies et en même temps accélérer leur enquête pour éviter que ces meurtres se multiplient. Comme il va y avoir plusieurs tomes, c'est déjà prévu, je vous présente déjà un petit peu donc, le personnage de Zach. J'en ai dit quelques mots, il est flic, il est jeune. C'est un très bon flic, qui du coup fait quelques jaloux, car son avancement a été assez rapide. Il a beau être jeune, il a déjà un lourd vécu. Alors souvent, les flics de polar sont alcooliques. Lui, son addiction serait plutôt la drogue. Toutes sortes de poudres et de cachets qui lui permettent de tenir le coup face au boulot, aux horreurs qu'il peut voir et face à ses démons du passé. Parce qu'en fait, il souffre de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si ça existe vraiment, le syndrome d'Alia Noire. C'est-à-dire qu'en fait, il est traumatisé par le meurtre de sa mère quand il était très jeune. Meurtre qui est non élucidé. Comme sa mère était flic, c'est probablement pour ça aussi qu'il a décidé de sa vocation. Il vient aussi des quartiers défavorisés de Stockholm. Son meilleur... un ami d'enfance, c'est un petit dealer. Donc ce qui est quand même assez pratique pour lui, vu qu'il consomme, c'est pratique pour son approvisionnement. Et ça lui permet aussi d'obtenir des infos dans les milieux qu'un flic ne peut pas forcément atteindre facilement. C'est un roman tout à fait réussi dans la catégorie de thriller. Thriller enlevé qu'on ne peut pas quitter avant la fin. C'est un petit peu un mélange de Nesbø, des romans de Joe Nesbø version Harry Hall, surtout pour ce personnage obstiné qui n'en fait qu'à sa tête, qui se contrefiche des ordres et de la hiérarchie. L'autre ingrédient du mélange serait un peu millénium, car il y a aussi une hackeuse dans ce roman. Là, c'est une flic, donc elle a un peu plus le droit que Lisbeth de hacker, mais enfin, pas trop
tu
non plus.
Tu l'appelles Lisbeth?
Oui, Lisbeth Salander.
On rappelle que c'est une des deux personnages principaux de la trilogie qui est maintenant...
Une quadrilogie.
Oui, voilà, Millennium.
Voilà, donc ce Zack, c'est un thriller, aussi un thriller technologique, avec des hackers, des ordinateurs, des téléphones portables. Il y a aussi pas mal d'actions, des poursuites en moto, de la bagarre, pas mal de sexe, il faut bien le dire. Zack est jeune, séduisant, et il fréquente les boîtes de nuit... Et il émane de lui comme une certaine aura qui plaît plutôt aux femmes du roman. Mais il n'y a pas que le personnage de Zack dans ce roman. Kalentov et son compère Lutemann l'entourent de plusieurs autres éléments, de plusieurs autres flics ou personnages, dont on sent bien que la brigade, enfin tous les personnages vont s'affiner au fil de ce roman et des suivants. Il y a son chef, il y a la fliquette hackeuse. Il y a aussi un personnage qui est très intéressant, c'est sa coéquipière, qui est une émigrée venue du Kurdistan. Il y a aussi sa copine, sa douce amie, qui est plutôt une fille de bonne famille, comme tu disais tout à l'heure, une fille de notable. Mais le roman, ce n'est pas seulement un thriller qui va très vite avec du rythme de l'action. C'est très bien fait, ça c'est sûr. Mais un peu comme certains de ses collègues de polar nordique, Måns Kalentov nous décrit une Suède où le racisme et la xénophobie deviennent monnaie courante, avec toujours les mêmes bons vieux arguments qu'on a entendus il n'y a pas si longtemps ailleurs. Ils nous prennent notre travail, ils détruisent notre identité nationale, etc., etc. Toutes les conneries de ce genre-là qu'on peut entendre. Il nous montre aussi que pour les gamins nés dans les cités défavorisées, il n'y a guère de solution pour s'en sortir, malgré ce fameux modèle social qui était tellement censé il y a quelques années. Je ne peux que vous conseiller pour commencer l'année, avant de s'attaquer à des romans noirs beaucoup plus sombres, de lire ce Zack. Ça me paraît une très bonne idée. C'est un roman tourne-page, un thriller à 100 à l'heure, j'appelle ça. Voilà, 400 pages.
Page-turner, c'est
un page-turner, voilà, un tourne-page, mais c'est en français. Thriller à 100 à l'heure, ça veut dire un peu la même chose. 400 pages à déguster, un peu comme une gourmandise après les fêtes. Et pour finir, juste avant les informations, je peux vous révéler que le tome 2 s'appelle déjà, et donc s'appellera sûrement en France, Léon.
Ça va être que des prénoms masculins, contrairement.
C'est pas impossible.
Voilà, et bien on vous retrouve dans la deuxième partie d'émission.